Cube Radio.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui, c'est le retour de La Haut sur la colline, la première de 2023. Et on commence ça en grand avec notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon qui commente les récentes déclarations de Justin Trudeau sur la disposition de dérogation. Aux yeux du prof Taillon, le premier ministre fédéral demande ni plus ni moins au juge de la Cour suprême de modifier la Constitution. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau. Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Ravi de retrouver notre chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Québec fait une demande singulière là, à Ottawa concernant cette porte-parole fédérale contre l'islamophobie.
Bien, on demande carrément qu'elle se retire. Amira El-Gawabi. Alors, nomination qui a fait parler depuis la semaine dernière. Donc, elle a été choisie par le gouvernement Trudeau pour être... porte-parole contre l'islamophobie. Ça inclut aussi, la lutte contre le racisme systémique et tout ça. Et depuis sa nomination, ce qui ressort, ce sont ses écrits parce qu'elle était journaliste, elle est militante. Et il y a plusieurs donc textes qu'elle a écrits qui ont fait surface. Et là, il y avait eu donc quand même déjà une réaction négative de la part du gouvernement Legault, Jean-François Roberge, qui avait demandé des excuses. Excuses qui ne sont pas venues. En fait, Mme El-Gawabi, c'est plutôt comme chercher à s'expliquer sur pourquoi elle avait écrit.
C'est un sondage. Hein, c'est...
Oui, quand elle, a dit, quand elle a dit donc notamment que malheureusement, la majorité des Québécois semble influencée par un sentiment anti-musulman. Mais elle a dit que c'était parce que c'était basé sur un sondage léger, un sondage sur l'appui des Québécois à la loi 21 sur la laïcité, mais il y avait une question qui permettait de voir, donc il y avait seulement 28% des Québécois qui avaient une perception positive de l'islam. Alors, c'est expliqué comme ça, mais Jean-François Robert, je dis ça, c'est pas des excuses. Donc, on demande sa démission. Il y a une déclaration formelle qui a été fournie par le ministre Jean-François Robert. Et Justin Trudeau a refusé. Il va pas broncher. Il n'y a pas question que Mme El-Gawabi soit tassée de son poste. Et je te dirais que ce que je trouve le plus particulier, c'est aussi le fait qu'elle a écrit d'autres textes, des chroniques, là, notamment aussi elle avait établi un lien entre l'assassinat de 4 membres d'une famille à London, en Ontario, et la loi 21. Elle avait dit que la loi 21 incite les Canadiens, que la tuerie là, incitait les Canadiens à examiner de plus près la discrimination au sein de leur propre communauté, y compris l'impact de la loi 21. Et une autre fois, elle avait réagi à un texte du Globe and Mail dans lequel un professeur disait que les Canadiens français étaient le plus grand groupe à avoir été victimisé par le colonialisme britannique. Et elle avait réagi en disant « je vais vomir ». Donc, évidemment, c'est particulier parce qu'on voit donc quelqu'un qui... doit lutter contre le racisme, mais qui semble à la fois nourrir des préjugés contre les Québécois à l'égard des... Donc, je comprends évidemment la réaction du gouvernement Legault. La porte est fermée.
Réaction forte quand même.
Oui, c'est ça. Forte. Et là, la porte est fermée du côté d'Ottawa. Mais je pense qu'évidemment, c'est pas terminé cette histoire.
Mais de vraiment demander une démission comme ça publiquement, est-ce que c'était en partie de la communication, Rémi?
Je pense que oui, parce que j'ai l'impression qu'il savait que Justin Trudeau allait pas aller jusque-là. Mmh. Et ça montre en fait un Québec qui bombe le torse là, et qui joue la carte de la défense. Là.
Surtout que François Legault a envoyé des signaux contradictoires en ne se présentant pas, par exemple, à la cérémonie de commémoration à la mosquée de Québec, oui. Alors que le premier ministre du Canada était là, le maire de Québec.
Oui, c'est ça, c'est une erreur. Je comprends que C'est pas parce que M. Legault, cette année, n'y était pas qu'il s'en fout. Là, t'sais, non. Faut pas faire de raccourcis, sauf qu'en même temps, sur le plan de la perception, c'est une erreur, surtout de voir le premier ministre fédéral qui est présent et François Legault qui est pas là et qui a dit « Bon, j'avais une obligation familiale. Ça passe pas super bien. » Ceux qui ont vraiment beaucoup de mal à se dépatouiller là, avec cette question-là, ce sont les libéraux à Québec. Parce que du côté du Parti libéral du Québec, ça a été un peu une comédie d'erreur aujourd'hui. La députée Jennifer McCarron, qui sur les réseaux sociaux, a publié un message ce matin. Et elle dénonçait le comportement de la CAQ et disait qu'il fallait soutenir la nomination de Mme El-Gawabi. Malgré donc...
Elle faisait appel même à l'humanité du gouvernement.
Ça.
Manque d'humanité.
Oui, alors malgré les propos de Mme El-Gawabi, ça c'était la position de Jennifer McCarron, la députée libérale de Westmount-Saint-Louis. Et le tweet depuis a été effacé. Et là, Marc Tanguay, lui qui est le chef intérimaire, a publié un
tweet
qui va complètement dans le sens contraire.
OK.
Alors, okay. Tiens-toi bien, Antoine. Marc Tanguay qui tweet Madame El-Gawabi doit s'excuser pour ses propos inacceptables et insultants. Nous jugerons de la sincérité de sa démarche.
Oh mon Dieu! Alors, mais là c'est les deux messages en tout à fait contradictoires en même
exactement.
Temps. Et là, celui de Jennifer McCarron était vraiment conforme à la philosophie du PLC. Puis, tu sais, on n'arrête pas de dire qu'actuellement, le PLQ, c'est une copie conforme, justement, du PLC, une espèce de succursale. On a l'impression qu'il essaye de jouer contre cette impression-là. Là,
ben, là, il y a un problème de direction. Je te ferai remarquer qu'après le discours inaugural de François Legault, Desiree Maigre avait publié un message dans lequel elle disait que c'était un manque de respect de M. Legault qui n'est pas parlé en anglais dans son discours inaugural. Puis quand les journalistes avaient voulu faire commenter ça par Marc Tanguay, jamais il avait répété ça. Et il n'avait jamais voulu dire non plus que M. Legault avait commis une erreur. Il avait été beaucoup plus nuancé en disant « Bon, ça aurait été bien avisé de mettre un mot en anglais, mais c'était pas pareil. » Donc là, est-ce que les députés libéraux publient des messages de leur propre chef sans avoir... l'assentiment justement du chef intérimaire de la direction, là, il y a un problème. Ou encore, on leur dit oui, ça va, puis après ça, on change d'idée, ce qui est encore plus problématique aussi.
Ce qui arrivait à l'époque de Dominique Anglade, entre autres. Oh, oui, on disait oui, puis après ça, on disait non,
mais,
non, non.
Mais donc, chose certaine, dans les deux cas, et là, je voyais donc le message de Mme McCarron ce matin, rien pour rapprocher le PLQ de la majorité francophone québécoise.
C'est vraiment un parti qui semble déboussolé. À la veille de la rentrée parlementaire, tu sais que demain, on va écouter de l'orgue, toi et moi.
Oui, on a.
Parce qu'on reprend notre analyse sportive de la période de questions. On n'a pas eu beaucoup, vraiment, cet automne.
Au compte-goutte.
C'est ça. Évidemment, on a eu une élection, ce qui était assez sportif. Mais on n'a pas eu beaucoup de périodes de questions. Puis là, on va en avoir, là, dès demain.
Oui. Et là, à quoi on doit s'attendre?
Oui.
C'est une session parlementaire, on dirait, où il va y avoir beaucoup de consultations. Parce que dans le cas, par exemple, de la langue, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure hors micro, toi et moi, la loi 96 a fait l'objet d'une consultation. La loi 96 a été adoptée et là, Jean-François Roberge va comme repartir en consultation. On me dit « Oui, mais c'est différent. On a eu l'occasion, nous, d'avoir une entrevue avec M. Roberge la semaine dernière en marge du caucus à Laval. » Et il disait « Bon, il y a des gestes qui ont été posés, mais... » Il y a d'autres choses qu'on peut faire qui ne sont pas des changements législatifs. Et là, je pense qu'on vise à des interventions plus larges. On cherche à rejoindre comme un petit peu la fibre des Québécois.
C'est assez paradoxal qu'on appelle ça le groupe d'action pour l'avenir de la langue française, le GALF. C'est ce qui a été créé la semaine passée par Jean-François Roberge avec plusieurs ministres, là. Simon-Jolin Barrette n'est pas là.
Non,
c'est un peu
non.
étrange, mais en tout cas, alors que Pascale Derry, elle, qui était porte-parole de Michael Rousseau d'Air Canada, est là. C'est un peu, en tout cas, ça augure mal à mon avis, mais je reviens sur le mot action. On parle de groupe d'action. mais ils vont faire de la consultation
et
des pubs.
C'est
une campagne de sensibilisation.
Il y aura un plan d'action à l'automne, nous disent-ils. Mais là, c'est ça. On consulte avant de choisir quelles actions on va poser. Et on veut visiblement poser des actions avant la fin du mandat.
Je ne sais pas combien de centaines de mémoires il y a eu pour la loi 93. Ouais. Je ne comprends pas.
Et du côté d'Hydro-Québec, c'est un peu la même chose. Pierre Fitzgibbon avait dit qu'il y aura un projet de loi. On va vraiment encadrer davantage l'utilisation de l'énergie au Québec. Puis là, il va y avoir aussi consultation avant que le projet de loi soit déposé. Donc, à l'automne, c'est pas cette session-ci qu'il y aura un projet de loi de M. Fitzgibbon là-dessus.
On dirait que le gouvernement veut gagner du temps?
Oui, je trouve que oui. Dans le cas de la justice où, comme tu le sais, il y a vraiment un litige super important entre Simon-Jolin Barrette et la juge en chef. On a nommé un médiateur.
Oui.
Donc, c'est pas comme de la consultation, c'est de la discussion. Mais bon, on est aussi en attente.
Ça va s'écharper solide autour de, autour de monsieur le conciliateur.
Oui, je pense qu'ils vont tirer au poignet pas mal. avant qu'on ait des solutions, ça va prendre un peu de temps. En éducation, M. Drainville a quand même présenté un début de plan.
Oui. Il y avait des éléments intéressants dedans. Oui. Moi, j'ai bien aimé l'idée de revenir au certificat là, pour avoir accès. Une fois qu'on a fait un bac, mettons, en chimie, en histoire, je dis ça, j'écris ça depuis des années. Là. Mm-hmm. Et enfin, on revient à la simplicité au lieu de forcer les futurs professeurs à juste être formés en pédagogie.
Oui, finalement. Alors ça, tu sais, début de plan, je pense qu'il va se faire quand même confronter.
Mais encore de la consultation pour Bernard Drainville?
Oui. Ben, parce qu'il a dit qu'il devait justement parler à tous les gens dans le réseau, etc. Donc, c'est pas terminé. Et moi, je pense qu'il va se faire quand même asticoter beaucoup là, sur qu'est-ce que vous attendez pour poser davantage de gestes.
T'es en train de me dire qu'on va avoir une session parle-parle, genre.
Et en santé... En santé, ça, ben, on verra quand même deux projets de loi déposés, mais Santé Québec, c'est l'agence.
On va créer l'agence
de Christian Dubé. Et ben, il y aura un projet de loi pour encadrer davantage les agences privées de personnel. Et ça, j'ai très hâte de voir là, comment on peut essayer de limiter le plus possible ce moyen dont on a besoin présentement pour faire fonctionner le système de santé parce qu'on est sur le fer, mais dont on doit cesser les effets pervers, c'est-à-dire plus il y a des agences privées, moins on a de monde dans le réseau public. Et là, il faut trouver une façon de donner un coup de frein à main là-dedans. Donc ça, je te dirais que c'est comme un survol de ce à quoi on va avoir droit. Et les partis d'opposition, les libéraux, comme on le voit...
Déboussolés.
Manque de cohésion. Il faudra voir comment ça va se dérouler. Est-ce que Marc Tanguay aussi va faire le choix de se présenter ou pas à la course à la direction? Parce que là, ça voudrait dire qu'il devrait céder son poste de chef intérimaire.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est à suivre. Du côté de Québec solidaire, on a entendu Gabriel Nadeau-Dubois qui a parlé d'avoir un message plus simple. Et je pense qu'il va chercher à se montrer plus humble, parce que c'est ce qu'il a dit dans une entrevue accordée à la presse, là, qui semblait conscient d'une perception de la population à son endroit.
Beaucoup d'introspection chez Québec solidaire, j'ai l'impression.
Oui, et eux, leur événement militant, il est très rapide. Là. Je veux dire, il va se tenir rapidement. D'habitude, c'est plus au printemps, mais mi-février, ça va venir vite. C'est pas en fin de semaine, l'autre, qui a donc un conseil national.
C'est un conseil national,
à Montréal. Et puis du côté du Parti québécois, ben ils ne sont que trois. Ils se sont...
ils font parler d'eux autres. Ils ont réussi, là.
Ah oui, quand même, effectivement. Oui. Ils se sont dotés aussi d'une équipe de porte-parole. On verra jusqu'à quel point ce sera efficace. Mais le Parti québécois, à date, a eu quand même la chance d'avoir des thèmes dans l'actualité qu'il favorise.
Oui.
Donc,
même le soccer.
Oui, jusque-là.
Mais ça leur a permis de faire parler d'eux. Puis, tu sais, on parlait évidemment de Mme El-Gawabi tout à l'heure. Et Québec solidaire, moi, j'ai essayé d'avoir une réaction aujourd'hui pour ce midi, pour la rencontre avec Benoît Dutrisac. Puis à la dernière minute, là, on m'a envoyé un mot de Gabriel Nadeau-Dubois qui était assez bien, mais on sentait qu'on... C'est-à-dire, il était assez bien, je vais le lire, il a dit qu'il faut lutter de toutes nos forces contre le discours haineux, mais que le peuple québécois est un peuple accueillant, ouvert, puis les propos de Mme El-Gawabi sont blessants pour les Québécois et les Québécoises. Pour lutter contre les préjugés, il ne faut pas les alimenter. Donc, on va voir si chez les militants, ça va passer.
Oui,
parce que ils ont déjà présenté des gens qui finalement défendaient des positions de ce type-là.
Exactement.
Hein? Merci beaucoup, Rémi, puis on se reparle demain.
Ça sera un plaisir d'écouter l'orgue.
Oui, hey, ça va être l'analyse sportive de la période de questions.
Antoine Robitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
Mais bonjour, Patrick Taillon.
Bonjour, Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, qu'on retrouve après quelques semaines de congé. Puis évidemment, il y a eu un gros sujet constitutionnel pendant cette pause-là de la hausse sur la colline. C'est la sortie de Justin Trudeau sur la disposition de dérogation ou la disposition de souveraineté parlementaire, comme certains l'aiment l'appeler.
Hey, Justin Trudeau voudrait modifier la Constitution.
Ah, c'est ça, hein?
Ben, il voudrait un grand changement par rapport à ce qui a été négocié en 1982, puis à ce qui a été interprété à l'unanimité, là, ça c'est pas tous les jours, là. Cour suprême unanime dans l'arrêt Ford qui nous dit... Voici, c'est comme ça que ça marche, la dérogation. Il n'y a pas j'ouvre les guillemets, il n'y a aucune raison d'exiger davantage en vertu de l'article 33. La Cour suprême unanime peut pas être plus clair que ça.
Mais là, est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est qu'une dérogation, juste pour le commun des mortels non constitutionnaliste, ben oui. mais tout de même érotisé, là?
Ben, c'est le compromis de 1982 entre, non pas le Québec et le reste du Canada, parce que le Québec ne participe pas à ces négociations-là, mais entre les 9 provinces et le fédéral, lorsque Pierre Trudeau proposait d'adopter la Charte canadienne, on savait que ça allait poser des limites à l'autonomie des parlements, et donc les provinces ont exigé qu'en contrepartie, si jamais... les tribunaux exagéraient ou s'il y avait un désaccord avec la jurisprudence des tribunaux, ben, de permettre en dernier ressort de rétablir cette souveraineté parlementaire pour 5 ans renouvelable. Donc, c'est ça la disposition de dérogation, c'est la capacité de dire, ben, pour cette loi, pour 5 ans renouvelable, notre solution, notre interprétation, celle du législateur, s'impose à l'interprétation préconisée par les tribunaux.
Et là, Justin Trudeau, influencé par un courant, disons, juridique, de pensée juridique, trouve que les provinces exagèrent, en font trop, évidemment. Ça commence par le Québec, là, qui en a mis des dispositions de dérogation dans la loi 21 et dans la loi 96.
Oui, et il faut être... Il y a quelque chose d'étonnant dans la position de Trudeau, c'est-à-dire que sur le fond, il y a une part de modération. Et sur la forme, ben, c'est beaucoup une astuce, voire même une forme de triche, là, que de présenter un désaccord d'interprétation là où, en vérité, ce qu'il veut vraiment, c'est sous-traiter à la Cour suprême, à des juges qu'il choisit lui-même et qu'il nomme unilatéralement sans que les provinces... est un pouvoir de décider qui ont place à la Cour suprême, mais il sous-traite à cette Cour suprême le mandat, en quelque sorte, de faire évoluer, de réformer l'équilibre, le compromis qui a été négocié en 82, parce que il veut pas se donner la peine de négocier franchement une modification constitutionnelle avec les provinces. Donc ça, c'est là la part d'astuce dans son approche. Et sur le fond des choses, ben, on se dit, mais que veut-il vraiment? Si on regarde ce que les opposants en général proposent, ceux qui s'opposent à la dérogation, la plupart des propositions vont souvent beaucoup plus loin que celle qui est avancée par Justin Trudeau ici. Par exemple, Andrew Coyne, chroniqueur dans le Globe and Mail, lui propose qu'on désavoue tout simplement les lois provinciales, de les annuler. Les opposants qui
parce
sont
qu'il y a un
contre
pouvoir,
la loi...
il faut le dire, dans la Constitution, il y a un pouvoir effectivement qui est devenu comme caduc avec le temps. C'est une, c'est une relique qui permettrait effectivement au fédéral de faire ça.
Dans une Constitution qui n'est jamais modernisée, ben, il y a des choses qui n'ont pas été exercées depuis les années 1940, mais qui sont encore théoriquement possibles. Ça fait partie des nombreux problèmes de la Constitution canadienne. Ouais. Il y en a plusieurs, surtout les opposants dans l'arrêt HAC. Eux autres, ils voudraient que les tribunaux s'autorisent de contrôler les motifs, les intentions, les objectifs, puis la gravité de l'action qui est menée par le législateur qui déroge. Donc, il voudrait un encadrement beaucoup plus poussé et soutenu de la dérogation que ce que propose Justin Trudeau. Mais ce que je comprends mal, c'est que si on résume la position de fond de M. Trudeau, c'est on ne devrait pas pouvoir déroger préventivement. Donc ça veut dire quoi, ça, préventivement? Ça veut dire que on ne devrait pas pouvoir déroger tant qu'on sait pas, tant qu'on ne connaît pas la position des tribunaux sur la loi qu'on est en train d'adopter.
Mm-hmm.
Alors, effectivement, il veut limiter l'autonomie du Québec puis des autres provinces qui utilisent la dérogation, mais il y a quelque chose là-dedans d'un peu futile, d'un peu circulaire, au moins pour deux raisons. La première, c'est d'abord...
Qu'est-ce que ça veut dire, préventif? C'est ça, l'affaire.
Ben oui, comment on fait pour identifier une dérogation préventive? Par exemple, Doug Ford, lorsqu'il veut déroger à la charte pour une question de relations de travail et de droit de grève dans le système d'éducation de l'Ontario,
oui.
Ben, il fait préventivement parce qu'il adopte une nouvelle loi. Sa loi n'existait pas hier, donc c'est une nouvelle loi et dès l'adoption de sa nouvelle loi, il met une dérogation. Mm-hmm. Mais sur le fond des choses, ça n'a rien de préventif. Puisqu'on sait très bien qu'il déroge à tel arrêt de la Cour suprême de 2015. Il y a toute la jurisprudence qui en a suivi. Donc, il y a quelque chose d'un peu fictif là-dedans. Même la loi 21. La loi 21, c'est une nouvelle loi, c'est vrai, sur le plan de la forme. Mais je veux dire, le gouvernement Legault aurait pu plutôt lui donner une autre forme, soit celle d'une modification à la loi 62 adoptée par le gouvernement Couillard. Puis cette loi, elle avait été suspendue par les tribunaux. Donc, sous la forme d'un amendement à la loi 62...
Alors là, on aurait pu dire que les tribunaux se sont déjà penchés sur 62, donc ce ne serait pas préventif, puisque ce serait une nouvelle version de 62, la loi 21, alors que c'est pas comme ça que François Legault l'a présenté. Il l'a présenté comme une toute nouvelle loi.
Ça tourne un peu en rond. Ça dépend comment on rédige l'affaire, dans quelle forme d'emballage on va mettre la dérogation, si je peux dire. Donc, il y a quelque chose d'un peu superficiel là-dedans. Et à terme, ben, même dans la loi 21, il serait possible d'imaginer dès le début un considérant les arrêts, puis le Multani, MCLM, NS, etc., tous ces grands arrêts de la Cour suprême qui ont défini la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses. Donc, à quelque part, même si on ne sait pas ce que les tribunaux pensent précisément de la loi 21, on connaît déjà, cette loi répond, elle répond à une jurisprudence qui existe déjà. Et à quelque part, il y a le deuxième aspect un peu superficiel de tout ça,
oui.
C'est que la dérogation, elle a déjà une logique, sa propre logique avec son renouvellement à tous les 5 ans, une logique démocratique, hein, tous les 5 ans, on a une élection. Et donc, on se retrouve dans une situation un peu bizarre où, si jamais l'argument de M. Trudeau l'emportait devant les tribunaux, ben la grosse conséquence pratique, là, ce serait qu'il faudrait demain matin réadopter la loi 21 et la loi 96 à l'Assemblée nationale. Or, de toute manière, d'ici juin 2024, et ça, en termes de délai parlementaire, c'est presque demain, là, c'est dans moins d'un an et demi, le Québec est déjà obligé de réadopter la loi 21. Alors, c'est ça qui est important pour M. Trudeau, là, c'est qu'on la réadopte, la loi 21, ben oui, on va la réadopter à tous les 5 ans. Et des fois, j'écoute M. Legault s'indigner à bien des égards de cette ingérence du fédéral dans le débat sur la dérogation, mais on dirait qu'il ne semble pas tout à fait conscient que de toute manière, et ça presse, ça devient urgent la réadoption de la loi 21, et si on est pour aussi renouveler la loi 96, ben, il va se poser très vite à Québec des questions. Est-ce qu'on fait les deux renouvellements en même temps? Comme processus démocratique, qu'est-ce qu'on veut au moment de renouveler ces lois-là? Il y a des gens qui vont dire on voudrait que ça soit le plus automatique possible, le plus vite possible. D'autres vont dire non, on voudrait au contraire avoir le temps d'avoir peut-être un rapport d'évaluation ou une consultation sur comment s'est passée l'application de la loi. Peut-être qu'il faudrait, dans le règlement de l'Assemblée nationale, prévoir un moment dans le calendrier où l'étude du renouvellement ou non-renouvellement de ces dérogations-là s'impose. Je pense que le Québec va devoir s'imposer une réflexion sur quel genre de processus de renouvellement on veut. Et ça, c'est un autre débat que celui que Justin Trudeau propose devant la Cour suprême, mais à la fin, les deux débats atterrissent, convergent vers une même réalité, c'est qu'on a le droit de déroger, mais il va falloir le renouveler à tous les 5 ans.
Et ça, ça permet un dialogue, justement, entre non seulement entre les parlementaires, les élus, la société civile, mais aussi entre tout ça et les tribunaux, le 5 ans, le fameux 5 ans, non?
Oui, et cette théorie du dialogue, elle est au cœur de la manière dont les tribunaux ont défini leur propre légitimité. Donc, ils disent, nous, on n'est pas élus, mais on sanctionne les lois votées par les élus parce que les élus nous ont donné le pouvoir de le faire et parce qu'ils conservent le pouvoir de nous répondre si nécessaire. Mm-hmm. Donc, ça, c'est le discours officiel que la Cour a adopté pour se donner une légitimité. Et donc, ce serait un peu paradoxal qu'en cherchant à en finir avec la dérogation, ben les tribunaux viendront en quelque sorte scier la branche sur laquelle légitimité est assise.
Mais sur le sur le plan technique, là, Patrick, préventif, comment ils pourraient les tribunaux définir ça? Il me semble que c'est très difficile. J'ai de la misère à concevoir.
Ben moi, je pense que à terme, c'est là la plus grande faiblesse de l'argument avancé par Justin Trudeau qui voudrait interdire les
dérogations préventives. Mais est-ce qu'il y a eu des propositions de définir ce qui est préventif ou non?
Bon, on
semble l'a bien montré, une loi peut tout simplement dire considérant tel arrêt.
C'est ça. On semble dire qu'une nouvelle loi, on ne pourrait pas y déroger. Mais qu'est-ce qu'une nouvelle loi? Moi, je ne connais pas vraiment une nouvelle loi puisque une nouvelle loi répond toujours à la jurisprudence qui existe déjà. Mm-hmm. Et donc, je vois mal en quoi c'est purement préventif, puisqu'on sait, on connaît déjà l'environnement jurisprudentiel dans lequel ces lois-là. En plus, une nouvelle loi, pour adopter une nouvelle règle, je peux le faire dans une nouvelle loi, comme un nouvel emballage, une nouvelle enveloppe, mais je peux aussi le faire en modifiant une loi existante. Donc, si c'est là qu'on veut aller, ça donnera pas grand-chose. Donc, il y a beaucoup de rhétorique, positionnement préélectoral.
Oui, c'est ça.
Mais sur le fond des choses, la proposition de distinguer préventif et correctif, c'est peut-être une bonne éthique de la dérogation, mais je pense pas que ça peut tenir la route en pratique. Mais ma peur demeure. En adoptant cette position-là, le gouvernement fédéral met toutes ses ressources pour dire à la Cour suprême, vous devriez faire un pas de plus pour limiter la dérogation. Ma peur est la suivante, c'est que la Cour réponde, oui, vous avez raison, tant qu'à faire un pas, on va en faire un ou deux de plus.
C'est ça.
Et là, c'est deux ou trois pas de plus. Ça pourrait faire bien plus de dommages à l'équilibre des pouvoirs qu'on connaît depuis 1982 qu'à ce qui est proposé par le fédéral. Une fois qu'on ouvre la porte, on sait où ça commence, mais on sait pas où ça va finir.
Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Taillon, pour cette première chronique de 2023, puis au plaisir de se retrouver la semaine prochaine.
Au plaisir.
Patrick Taillon, c'est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la première de Là-haut sur la colline de 2023 en ce beau lundi neigeux. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.